Et une nouvelle édition de l'économie en question. Nous parlons ce matin d'économie du partage ou économie collaborative. C'est le thème qui a été choisi cette année par le Women's Forum, le Forum international des femmes pour l'économie et la société, organisé comme chaque année à Deauville, et donc France Culture est partenaire. Beaucoup de monde à ce forum, près de 1000 délégués venus de très nombreux pays. L'impression est saisissante, je dois dire, pour qui connaît la composition habituelle des salles de congrès et de colloques, pourcentage littéralement inversé, 90% de femmes, 10% d'hommes, je n'ai pas calculé, mais ça doit être à peu près cette proportion-là. Examen donc cette année sous tous ces angles d'une nouvelle économie dont la progression foudroyante soutenue par la révolution numérique force à s'interroger sur les transformations de l'autre économie, la traditionnelle, mais aussi sur les transformations de la finance, du commerce et bien sûr du travail. Avec une interrogation centrale, nous allons tâcher d'y répondre. Qui a la maîtrise de tout cela? C'est bien notre titre, économie du partage, mais comment partager les responsabilités? Et nous sommes en compagnie de Clara Guémard, cofondatrice de Raise. Raise, c'est une société d'investissement, des fonds de dotation pour la croissance en France. Mais Clara Guémard est également la présidente du Women's Forum, qui va nous en dire un peu plus. Natacha Valla, également économiste en charge de la politique et de la stratégie économique au département d'économie, donc de la BEI, Banque Européenne d'Investissement. Bienvenue à vous aussi. Et Christian Dutertre, professeur de sciences économiques, Université Paris Diderot, qui dirige le laboratoire d'intervention et de recherche, on l'appelle Atemis, et qui travaille beaucoup sur toutes ces questions, travail, mutation des industries, des services. Et puis par ailleurs, nous avons demandé à chacun de venir avec un chiffre, nous verrons lequel en toute fin d'émission, c'est bien l'économie en question. Bienvenue à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Économie du partage, donc choisie comme thème par le Women's Forum. Clara Guémard, peut-être en quelques chiffres, hein, je les ai pris dans votre communiqué de presse, on peut peut-être en ajouter d'autres. C'est quand même une tendance très forte, hein, nous l'avons tous observé les uns et les autres, avec des revenus importants, 15 milliards aujourd'hui de dollars, mais on en attend beaucoup plus à l'horizon 2025. On parle de plus de 300 milliards de dollars, ce qui me paraît un chiffre absolument énorme. Et bien entendu, pas seulement aux États-Unis, en Europe, et on va y revenir plus largement, et dans beaucoup de pays émergents, le Brésil notamment, d'autres pays d'Amérique latine naturellement, la Chine aussi. Pourquoi avez-vous choisi ce thème-là? Et j'ajoute que vous avez posé quelques conditions à ce thème, vous aussi, économie du partage, mais est-ce que c'est une économie partagée par tous?
Oui, alors au Women's Forum, il y avait 1300 personnes, il y avait 60 pays, des femmes dirigeantes et aussi, bien sûr, des hommes. Et on a choisi ce thème, mais avec une approche peut-être différente de celle de tous les autres forums qu'on peut avoir qui parlent de cette fameuse économie du partage ou l'économie collaborative ou l'économie horizontale, puisque on a posé comme question, est-ce que l'économie du partage va conduire à un monde du partage? Et rien n'est moins sûr, mais ça n'a jamais été aussi possible. Pourquoi? Parce que quand nous, on parle des objets, enfin moi quand j'étais jeune, on parlait des objets en les appelant par leur nom. Une voiture est une voiture, un livre est un livre, un voyage est un voyage. Mais quand on parle aujourd'hui des nouveaux usages, on les appelle par les noms des entreprises. On Google, on tweet, on Facebook, on Instagram, on Blablacar. Et donc ça veut dire qu'il faut se poser la question de savoir si cette économie du partage va pas être comme la chanson d'Abba, « The winner takes it all ». Et d'un autre côté, cette économie du partage, ce qu'on appelle l'économie du partage, c'est le fait de pouvoir utiliser la technologie du digital dans toutes les sphères de l'économie, permet à plein de jeunes entrepreneuses et entrepreneurs de démarrer, d'avoir des projets. Ça donne une liberté et une capacité à agir absolument immense, non seulement à la génération Y, mais aussi à la nôtre, pourvu qu'on en ait conscience. Donc c'est de cela dont on a voulu débattre au Women's Forum, en y mettant une condition, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est une condition que, quand on rentre dans un nouveau monde, il faut savoir aussi en fixer non seulement les règles du jeu, mais les valeurs qu'on veut vouloir défendre. Et aujourd'hui, on aborde l'économie du partage avec les changements de business model qui vont bouleverser la banque, qui vont bouleverser l'assurance, qui vont bouleverser tous les métiers.
Il faut vraiment
métiers.
Parler aussi de la finance, de l'assurance, de beaucoup d'autres mondes. On n'est pas seulement sur le service consommateur.
Tous les métiers sont aujourd'hui bouleversée par l'économie du partage et par les changements de business model. Mais il ne faut pas oublier que la chose la plus importante, c'est l'attitude et le comportement pour Bien pouvoir sûr. Embarquer tous les gens, les Françaises et les Français dans cette aventure qui, d'une certaine manière, à la fois s'impose à nous, mais est une formidable chance.
Christian Duterte, si l'on définissait au fait l'économie du partage, j'aurais peut-être dû commencer par là. Vous choisissez plutôt, c'est pas tout à fait la même chose, l'économie de la fonctionnalité. Mais faites-nous le lien entre les deux et pourquoi vous préférez parler de celle-là.
L'économie du partage, en réalité, provient d'un premier mouvement, alors de généralisation de l'usage du numérique, mais provient d'un premier mouvement de partage dans la consommation. C'est-à-dire, on va partager les voitures, on va partager les appartements, et donc c'est dans le cadre de la consommation qu'il y a une consommation collaborative qui s'est mise en place. Et sur la base de cette consommation, par le fait que les plateformes mettaient en relation directe les personnes, s'est développée une nouvelle activité que l'on a appelée économie collaborative, et derrière, économie dite du partage. Alors la question, c'est qu'en réalité, quand on dit partage, on partage ce qui existe. On partage d'abord ce qui existe. On partage des voitures qui existent. On partage des appartements qui existent. De ce point de vue-là, l'économie de partage a comme premier impact de transformer les rapports d'intermédiation entre les acteurs d'un point de vue économique, mais à partir d'une production existante.
Elle ne crée pas.
Elle ne parle pas des conditions dans lesquelles va se mettre en place un processus de développement. D'où l'importance de la question... En tout cas, notre approche économique de ces enjeux que nous appelons l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et dans cette économie du développement, dans une nouvelle forme de développement, alors la question du travail est une des questions centrales. Comment travailler ensemble, par la coopération, les plateformes, les échanges numériques pouvant être une aide technique à une évolution du travail, mais n'en est pas forcément le cœur. D'où la question que vous indiquiez, c'est pas sûr que ça va partager.
On peut aussi ranger dans l'économie du partage la connaissance partagée, hein, l'enseignement par Internet, bien entendu, les données publiques et privées, nos open data qui circulent partout sans que nous sachions très bien ce qui va en advenir. Et puis les pépinières, les incubateurs, il y en avait aussi au Women's Forum, les fameux laboratoires qui conçoivent, hein, et qui les villes également qui se connectent très rapidement. Tout ça fait partie du partage. Natacha Valaï, du côté de la finance, comment ça se passe?
C'est un phénomène intéressant parce que c'est un phénomène qui est extrêmement rapide. Quand on voit l'évolution des valorisations boursières de ces entités, de ces Airbnb, de ces Uber, etc., on se rend compte qu'on obtient des ordres de grandeur qui sont disproportionnés par rapport aux acteurs existants sur le marché. Je vous donne un exemple. Ouais. L'exemple de Airbnb, la capitalisation boursière de Airbnb en 2014, c'était 10 milliards de sterling, donc 10 milliards de livres. Ordre de grandeur intercontinental, 6 milliards. Tous les grands acteurs du secteur étaient à peu près aux alentours de ça. 2015, on passe de 10 à 24. Donc en l'espace de 12 mois, on fait plus que multiplier par deux la valorisation boursière de cette activité. Alors la première question que ça pose, enfin le réflexe de l'économiste, c'est où est la valeur ajoutée? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle est la valeur ajoutée dans la mesure où, dans sa version originale, elle traitait cette économie, ces acteurs qui intermédient qui font le partage dans cette économie, utilisent un stock de capital existant. Alors là, il y a deux choses à regarder. La première chose, c'est... Est-ce que ce ne sont pas des acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur, dans la création de valeur ajoutée, et qui vont divertir, recanaliser une certaine valeur ajoutée? Alors, qui vont enlever cette valeur ajoutée aux acteurs traditionnels du secteur? C'est une bonne chose, une mauvaise chose? On ne sait pas trop.
Il y a peut-être des structures moins.
Et deuxième question, c'est qu'en est-il du consommateur? Est-ce qu'il n'y a pas une partie du consommateur ou du producteur de services qui finalement à qui cette rente échappe dans une certaine mesure? Une anecdote pour venir ici.
Ici à la maison de la radio, ce matin.
Le chauffeur Uber me disait, mais moi je vais prendre une licence de taxi parce que Uber a baissé les prix, je m'en sors plus.
Ils vont les réaugmenter.
Mais donc il y a quand même une question de. On sent que l'équilibre est encore ténu dans cette dimension-là. Alors une valeur ajoutée peut-être, et c'est très lié à ce qui vient d'être dit, c'est que ça permet sans doute d'augmenter l'intensité d'utilisation du stock de capital. J'ai ma voiture que j'utilise 2 heures par jour, elle va finalement être utilisée 10 heures. J'ai mon appartement que j'utilise 3 mois par an, ça va faire en sorte que. Donc ça, c'est une certaine amélioration de l'efficacité de l'utilisation du stock de capital existant.
Plusieurs études disent d'ailleurs, je l'ai lu avec surprise même, que je crois aux États-Unis notamment, les véhicules sont utilisés moins de 90% du temps.
Il y a des choses
incroyables. C'est très impressionnant et on pourrait peut-être faire les mêmes constats.
3% Clara du Guémard. Temps, les voitures sont utilisées 3% du temps de leur vie.
C'est
en
ça.
Moyenne, en moyenne. Et je pense que ce qui est important de dire aux auditeurs, c'est que l'économie du partage, elle a deux conséquences. La première, c'est l'optimisation, effectivement, de l'existant, et qui permet d'avoir une économie qui est plus environnementale, plus économique, plus frugale, et qui permet surtout à des gens qui n'ont pas accès à ces biens-là d'en bénéficier. Donc c'est vraiment la transformation de la consommation avec l'usage. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de posséder un bien pour pouvoir en avoir l'usage. Et ça, c'est une transformation radicale qui est extrêmement importante à souligner parce qu'elle va permettre de continuer le développement économique sans forcément impacter l'environnement de la planète. Puisqu'aujourd'hui, le sujet quand même de l'environnement est absolument clé. Puis l'autre élément qu'on ne signale jamais, c'est que ça va complètement transformer la production industrielle. Parce que le fait de connaître les informations sur comment un moteur d'avion consomme son énergie, etc., en temps réel, va pouvoir permettre de changer la façon dont on le fabrique. Il ne faut pas oublier l'imprimante 3D, il ne faut pas oublier les composants numériques, il ne faut pas oublier la robotisation, qui fait qu'on va pouvoir produire pour beaucoup moins cher, à la fois financièrement, mais aussi pour la planète.
Oui, on va se poser la question tout à l'heure aussi de la question des industriels. On parle des automobiles très peu utilisées, donc nous avons tendance à vouloir partager, puisqu'après tout, on ne s'en sert pas assez.
La voiture électrique, franchement, on va avoir aujourd'hui des voitures sans chauffeur, et pourquoi ne pas avoir appelé la voiture pour lui demander de venir sortir du parking, et une fois qu'on a fini l'utiliser, quelqu'un d'autre l'utilise. Pourquoi garder une voiture dans son garage à partir du moment on peut appeler sa voiture pour venir nous chercher et nous emmener là où on veut.
Bien sûr, mais problème pour les constructeurs qui commencent déjà à s'en inquiéter, moins de production. Ce qui est peut-être le but en termes environnementaux, mais qui les oblige quand même à des transformations radicales, Christian Duterte.
En tout cas, ce processus qui est de mettre à disposition des biens qui n'étaient pas précédemment à d'autres, bien entendu, va engager un processus récessionniste au niveau de la demande
de décroissance de la production,
biens d'équipement,
c'est clair.
De voitures, etc. Donc toute la question, c'est de
voiture
savoir...
et tout le reste.
On a nommé la voiture comme ça.
On peut parler des tondeuses, on peut parler de tout ce qu'on veut.
De beaucoup de choses. Mais la question, c'est comment l'économie va se reconvertir.
C'est ça.
Et cette manne financière qui arrive derrière les plateformes, parce que c'est ça la grande question, elle va dire qu'on anticipe, parce que pour l'instant, elle n'est pas arrivée dans les plateformes. Elle a, la capitalisation augmente très rapidement, comme vous avez souligné, sans qu'il y ait parallèlement les profits qui viennent abonder cette anticipation. Donc c'est une anticipation de nouveaux positions monopolistiques de ces acteurs dans des enjeux qui sont par exemple la mobilité. Alors là on retombe dans quelque chose de beaucoup plus complexe. On peut pas du tout se limiter à la question de la voiture, parce que l'usage de la voiture, c'est bien autre chose que simplement ouvrir la porte et rentrer dedans. C'est les conditions dans lesquelles il y a des embouteillages ou pas des embouteillages, c'est les conditions dans lesquelles la voiture s'articule. La pollution, mais ça changerait pas grand chose avec la voiture électrique, ce que je suis en termes d'usage, ce que je suis en train de parler, c'est-à-dire les conditions d'articulation de l'usage de l'automobile avec le transport en commun, avec la mobilité légère, les patinettes, et donc c'est quelque chose qui renvoie à des enjeux plus complexes qui étaient la mobilité. Et qui va avoir des éléments de décision sur les orientations de mobilité? C'est là où une question politique est très importante, de régulation et de responsabilité. Aujourd'hui, ça se concentre sur un nombre d'acteurs ridicules par rapport aux responsabilités qui vont derrière. Donc on a un très grave problème économique et politique, les conditions de régulation de ces transformations économiques.
C'est une vraie question, Clara Guémard, Et aussi une formidable opportunité, il faut le dire, mais enfin, il est vrai que pour l'instant, en plus, ce sont, comme l'a signalé Inter Chavala, des entreprises très importantes, les fameux GAFA, les grandes, les plus importantes, qui, pour une bonne part, savent échapper.
C'est des opportunités, ça dépend pour qui.
J'étais entraînée et qui, pour une bonne part, savent échapper au fisc. C'est une autre question.
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure la question des industriels, du système de production, quels enjeux. Et je pense que l'économie du partage pose une question nouvelle par rapport à la question nouvelle que pose déjà la question de la digitalisation. Et on a un gros problème de compréhension en économie, au niveau de la macroéconomie, c'est de voir que finalement, on assiste dans la plupart des pays développés à un ralentissement de la productivité décennale. Ça veut dire que ça fait 10 ans que la productivité des facteurs se réduit, alors qu'on est en train d'introduire de la digitalisation, d'une efficacité plus grande des processus de production, et on comprend pas trop pourquoi on observe ce paradoxe. les équipements sont de plus en plus poussés, les entreprises sont de plus en plus intégrées dans les chaînes de valeur internationales, la qualification des employés augmente elle aussi. Donc les ébauches de réponses qu'on peut avoir vis-à-vis de la digitalisation, c'est bon, c'est peut-être temporaire, il y a une transition. Alors là, dans cette transition, est-ce que l'économie du partage peut nous aider à regagner cette productivité? Première réponse potentielle, je la pose comme question non rhétorique. Hein.
Pas résolue pour l'instant.
Deuxième hypothèse, c'est une fonction de très long terme, on est dans une stagnation séculaire, la production basse c'est pour longtemps, et digitalisation ou pas, il faudra vivre avec. Troisième question, c'est peut-être une question de mesure, et peut-être qu'on ne sait pas mesurer ce que nous apporte la digitalisation dans les processus de production, dans la valorisation qu'on peut donner en tant que consommateur, et donc il faut travailler sur la façon dont on est capable de percevoir, capter, catégoriser et transformer ça dans les matrices traditionnelles de lecture de l'activité économique qui sont encore aujourd'hui le PIB.
Oui, avec souci pour l'emploi, encore une fois.
Hein, oui, je voulais absolument ce que vous dites, réagir à ce que disait Natacha, parce que c'est vraiment l'opposition qu'on voit de façon fréquente entre les chefs d'entreprise que nous sommes et les économistes. Puisque les économistes ont une lecture d'une économie de production et de services, et nous avons une lecture de l'économie ou de nos entreprises avec la chance qu'offre le numérique. Quand vous n'allez plus à la gare pour aller acheter votre billet de train, vous faites baisser le PIB du pays. Et pourtant, c'est un gain de productivité gigantesque pour vous. Quand vous pouvez être soigné beaucoup plus tôt grâce à la digitalisation de la médecine, c'est un coût pour la sécurité sociale. Et pourtant, c'est un gain, entre guillemets, de productivité ou en tout cas de bien-être public qui est gigantesque et qui n'est mesuré nulle part. Et nous, c'est ce que nous voyons chez Reiss, puisque nous voyons énormément de jeunes entreprises. D'abord, elles suscitent une admiration incroyable parce qu'elles vont sur des territoires totalement inconnus auxquels on ne pensait pas. Il y a une jeune femme qui a créé une entreprise qui s'appelle Lumi. Elle fait de la lumière avec de la biofluorescence en utilisant les algues qui fabriquent de la lumière. Qui y aurait pensé?
Le biomimétisme, c'est un phénomène extraordinaire.
Elle y a pensé parce que tout simplement elle est écologique et elle veut ne plus trouver une forme d'énergie qui soit pas consommatrice de pétrole ou de gaz. Donc il y a énormément de le digital, c'est pas il faut être spécialiste, savoir coder, comprendre le numérique, etc. C'est exactement comme l'électricité, elle vient évidemment ça éclaire, mais ça vient transformer fondamentalement tout dans la vie de tous les jours. Et les jeunes, notamment la génération Y, ont su prendre cette opportunité qui permet de créer des nouveaux usages.
À ce sujet, je voulais juste ajouter un mot, je vous laisse parler Christian Duterte ensuite, sur ce que vous disiez sur la société. C'est aussi un phénomène social, c'est-à-dire que être propriétaire, il me semble, hein, il y a quelques générations, c'était quand même un signe de progression, d'ascension sociale. J'ai une voiture, j'ai une maison, évidemment. Aujourd'hui, on n'a plus de tellement de scrupules à louer son appartement,
non, mais
qui aurait paru quand même un signe presque de déchéance personnelle. C'est une remarque au passage, mais c'est aussi une transformation sociale à laquelle nous assistons.
C'est-à-dire dans la discussion, il y en a deux qui se chevauchent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Qui est d'un côté la généralisation de l'usage du digital, en fait du numérique, pour dire les choses simplement, et d'autre part la question de l'économie collaborative ou de l'économie du partage. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La diffusion du digital est absolument générale. Alors, dans une situation qui bouleverse deux choses, d'abord, les gains de productivité, on ne sait plus les repérer. Et oui, parce que autrefois, dans l'industrie manufacturière classique, l'innovation technologique permettait de gagner en temps ou en matière, qu'on le voyait directement à partir des objets. Aujourd'hui, dans cette économie qui est devenue beaucoup plus de services, l'introduction d'une nouvelle technologie permet de faire autre chose que ce que l'on faisait précédemment. On ouvre le champ des possibles, et notamment le champ des services. Une partie de ces services sont des services très immatériels, très relationnels, de qualité de soins, qualité... On peut les retrouver dans différents domaines, et ça, on ne peut pas le mesurer. Du coup, on est confronté, les économistes, cette fois-ci, sont confrontés, ma profession est confrontée à une illusion de croire qu'il n'y a pas de productivité apparente. Mais il y a de la productivité. Et quand vous rentrez dans les entreprises, quand vous regardez le travail des personnes dans les entreprises, vous mesurez combien les personnes sont plus efficaces et engagent un processus qui est beaucoup plus rapide qu'autrefois. Ceci dit avec une réserve. les gains de productivité dans les entreprises sont confrontés aussi à des pertes de productivité. Parce que le digital, le numérique, n'a pas forcément et de manière mécanique un usage efficient. Ce n'est pas vrai. On peut avoir le pire et le meilleur. Vous développez des mails, vous allez développer des relations avec vos collègues juste à côté. En envoyant un mail à votre collègue juste à côté, la personne ne va pas comprendre ce que vous voulez dire et vous perdez du temps, vous perdez de la pertinence et vous perdez de la qualité. Et donc ici, ce qui se pose, c'est la qualité de l'usage du numérique dans le travail qui est une question essentielle. Or là, encore, on est devant un problème où on est opaque. Alors, les économistes, moi-même, je veux dire, en général, on ne perçoit pas ça, mais y compris les entreprises, et y compris les chefs d'entreprise ne le voient pas. Parce que les chefs d'entreprise, ils ont une vision de la stratégie de leur entreprise. Très rarement, ils s'intéressent à la réalité du travail dans leur entreprise.
Clara Guémard réagit. Il est rare que nous ayons des chefs d'entreprise ici.
Les bons chefs d'entreprise vont sur le terrain, vont voir leur magasin, regardent comment ça fonctionne, etc.
Il y avait Moutarkent,
qui est le patron de Coca-Cola, qui systématiquement, quand il va quelque part, va dans les magasins, va dans ses usines. Donc, je crois que on peut pas dire que les chefs d'entreprise ne pensent qu'à la stratégie. Ils ne regardent pas au quotidien de leurs salariés.
C'est leur activité principale. Je travaille énormément avec des entreprises que j'accompagne. Mon laboratoire est un laboratoire aussi d'intervention. Donc, on travaille étroitement avec des entreprises. Et une des grandes questions, pour les chefs d'entreprise ou les dirigeants des entreprises plus largement, c'est comment on revient à la question du travail réel. Et c'est pas si simple. Mais je veux pas les accabler. Attention. C'est pas si simple de revenir à une compréhension du travail réel. Parce que ce travail réel, ça se voit pas comme ça. Ça demande une forme d'organisation. Ce que j'appelle une organisation réflexive où la question du travail peut revenir sur le devant de la scène.
Natacha Valla.
Encore une fois, il y a deux ordres.
On va pas vous demander d'arbitrer.
Je n'arbitrerai pas. Mais il y a quand même deux ordres de conséquences. Et là, je serais d'accord avec ce que disait Clara Guémard tout à l'heure, c'est que d'un côté l'amélioration de cette qualité, le billet qu'on va plus chercher, etc., ça détruit du PIB. Donc on mesure
du produit intérieur brut.
On mesure à l'envers cette amélioration finalement du processus de production de la qualité de vie. Donc ça, c'est un premier travail que les économistes ont à faire. Et le deuxième travail, qui est peut-être encore plus colossal parce qu'on n'a même pas encore les outils pour mesurer, mais ne soyez pas trop inquiets, il y a des gens qui travaillent
dessus
aujourd'hui, c'est de dire, voilà, cette dimension digitale et cette dimension nouvelle qui rentre pas dans les vieilles cases, eh ben on va essayer de créer les cases, on va essayer de pas compter les choses deux fois, et on va être assez méthodique avec des méthodes statistiques, des méthodes de mesure, pour essayer d'arriver à une nouvelle mesure de la valeur ajoutée qui s'intègre à l'ancien système, avant qu'on ait un nouveau système de mesure.
Ouais. Question encore, on l'a déjà abordé, mais rapidement, la question des emplois, pour beaucoup, cette nouvelle économie, donc contrairement à d'autres grandes révolutions industrielles qu'on a connues évidemment par le passé, ne crée pas nécessairement des emplois. On n'est pas dans les théories schumpeteriennes, pour revenir à Schumpeter, de destruction créatrice. Quelques milliers de personnes produisent beaucoup d'innovations, mais est-ce que ça va faire autant d'emplois à la clé que répondre à cela ? Sans aller jusqu'à l'hypothèse qui va proposer un revenu universel pendant que certains travailleront. Oui, un revenu universel pour les autres. Mais on en parlera dans d'autres sujets.
C'est très intéressant, mais.
C'est très important.
Mais
rapidement sur cette question de création d'emplois, un mot chacun.
Ce que l'on voit, c'est d'abord la destruction d'emplois. Mais attention, l'emploi, c'est une forme d'engagement du travail. Il n'y a pas forcément une destruction du travail. Il n'y a pas forcément la fin du travail. Là, c'est très différent, l'emploi et le travail. L'emploi, c'est des formes juridiques, des conventions qui encadrent les conditions dans le travail est engagé. Là, ce qui s'est posé, c'est que les anciennes formes d'emploi vont être détruites. Ça, c'est sûr. Par contre, toute la question qui est posée maintenant devant nous, c'est quelle nouvelle forme d'emploi on est en capacité d'imaginer et de construire conventionnellement de telle manière que ça corresponde.
Mais il faut faire vite, Christian Duterte, il faut faire très vite.
Ça ne pourra pas aller vite.
Parce qu'on nous annonce quand même très vite, en revanche, des destructions.
Il y a des phases très 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 compliquées, il ne faut pas se leurrer, on va avoir des traumatismes très, très, très importants, il faut s'y préparer. On peut pas aller très vite sur ces questions-là.
Il y a
des agendas entrepreneuriaux et de diffusion de ces technologies qui ne sont pas exactement les mêmes que les agendas des conventions, des politiques des capacités.
On revient à la responsabilité des politiques.
Je vois pas pourquoi le monde administratif et politique ne pourrait pas utiliser les mêmes outils qu'utilisent le monde de l'entreprise. Pourquoi faut-il, quand vous allez accrocher une armoire chez votre voisin et qu'il vous paye 200 euros, qu'il faille que vous attendiez un an pour faire votre déclaration d'impôt et payer vos charges sociales? On pourrait très bien imaginer des systèmes qui font que vous payez à la transaction et vous avez payé vos impôts et vos charges sociales. Et c'est très important parce que ce qui va se développer de plus en plus, c'est le travail indépendant. Et je voudrais rappeler, parce que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui le dit, c'est que le travail indépendant, c'était la règle jusqu'au siècle dernier. Le salariat a été généralisé en 1945. Et le travail indépendant, si ça vous permet d'acheter votre appartement, votre voiture, et que vous avez cette sécurité-là, il n'y a aucune raison que ça ne permette pas de vivre bien en ayant 5 métiers par jour.
Une sécurité qui est quand même très relative.
Mais aujourd'hui, parce qu'on a construit le système social comme cela, mais si on le construisait différemment, il n'y a aucune raison pour que la capacité d'avoir plusieurs activités dans la journée ne vous permette
pas de mieux gagner votre vie.
Le problème du travail n'est pas qu'un problème d'accès à un revenu. Le problème du travail, c'est une question extrêmement importante pour tous les êtres humains, femmes et hommes, dans la façon dont ils se développent, dans la façon dont ils développent leur personnalité. Et la capacité des personnes dans le travail, c'est une contribution à des services utiles. Mais ça, on a besoin de se professionnaliser. Là, le travail indépendant est dans une très grande difficulté pour se professionnaliser. Et donc, on ne résout pas ce problème-là en disant le travail indépendant donne accès à des biens et des services comme perspective. Il faut vous revoir la question dans les logiques de professionnalisation des enjeux du travail.
Les jeunes chauffeurs de taxi dont on parlait, effectivement, sont indépendants, mais loin d'être protégés. Natacha Balal, tout dernier mot.
Sans rentrer sur la question des statuts, du salariat, ce qui est vraiment un grand débat, il y a quand même, dans cette économie du partage, il y a des choses qui émergent, qui sont plus basées sur un stock de capital, le partage de l'expérience. Et là, on peut trouver des exemples. Un luthier dans le Lot, qui a l'habitude de faire des violons, peut vendre aussi des expériences de finalement je vous montre comment je fais mes violons, et donc ça me permet d'avoir finalement une dimension supplémentaire. Et ça crée, alors ça marchandise des choses qui n'étaient pas marchandisables, et je pense que ça ouvre un autre débat.
À suivre, bien évidemment, ça va très très vite comme on l'a dit, mais nous y reviendrons nous assez régulièrement. On va connaître à présent vos chiffres. Qui commence, Clara Guémard?
Oui, moi je voulais citer le chiffre de 4%, une erreur de communication de la SNCF qui se vante d'avoir les salaires des femmes qui est inférieur de 4% par rapport aux hommes à la SNCF. En fait, c'était pour dire que c'était mieux que le reste. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, les gens se sont
précipités
pour dire mais comment peut-on se vanter de payer moins les femmes que les hommes à la SNCF?
C'est dit, Clara Guémard, présidente du Women's Forum qui vient de se clore à Deauville, qui reprendra évidemment l'an prochain. Et on la félicite parce que c'est vraiment une opération intéressante, j'en témoigne. Natacha, voilà votre chiffre.
Toujours sur les femmes, 3%, la part des femmes dans l'open source, l'open world, ce qui est donc très très faible. Les femmes sont déjà sous-représentées dans les métiers technologiques, scientifiques, d'ingénierie, mais c'est encore plus le cas dans l'économie encore nouvelle. Donc je pense que
celle dont nous parlons là.
Ça interpelle et c'est intéressant de le souligner.
De l'intérêt d'inviter des femmes dans cette émission, Christian Dutertre.
Mon chiffre, c'est 1164, l'annonce des pertes d'emplois par Airbus en Europe. C'est marquant, de mon point de vue, pour une industrie extrêmement dynamique, extrêmement innovante, un fleuron de l'industrie européenne, qui n'est pas en capacité, à travers les enjeux de globalisation, de traduire ça par une croissance d'emploi. On est confronté là vraiment à une impasse, et donc à la question de l'innovation de nouveaux modèles économiques, dont peut-être l'économie de la collaboration, mais très certainement aussi l'économie de la fonctionnalité.
Merci infiniment à tous les trois. Christian Dutertre, donc, que l'on vient d'entendre, spécialiste de ces questions d'économie, de la fonctionnalité, avec son laboratoire analyse du travail, des mutations, industrie et services. Clara Guémard, donc, cofondatrice de Raise, société d'investissement, mais aussi présidente, comme je l'ai dit, du Women's Forum. Et Natacha Valla, économiste, stratégie économique au département d'économie de la Banque européenne d'investissement. Encore merci à tous les trois et bien sûr à notre petite équipe. Laetitia Coya réalise l'émission avec Pierrick Monsignon aujourd'hui, merci à eux. Et bien sûr, Laurence Jeannepin, préparation, documentation, venez nous retrouver sur notre site L'économie en question.
et sur Twitter, tenez, vos commentaires sont plus que bienvenus.